journal Jacques Macan BNB.
Situation tendue depuis samedi dernier entre la population et les militaires de la force navale à Lissala, province de l'Équateur. À la base de cette tension, un militaire de la force navale a battu à mort un jeune homme qui appartenait à la famille du garçon de 17 ans, tué au mois de février dernier par un militaire FRDC. Les évêques congolais invitent les dirigeants de la RDC à un changement de mentalité pour sauver les pays des dangers qui les guettent. Ils l'ont dit hier au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa. Le manque de structures de rééducation des jeunes en conflit avec la loi, source d'incompréhension entre l'autorité urbaine et les structures judiciaires à Tshikapa, province du Kasaï occidental. Certains enfants passent près de 6 mois en détention préventive à la prison. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Situation tendue depuis samedi dernier entre la population et les militaires de la force navale à Lissala, province de l'Équateur. À la base de ces tensions, un militaire de la force navale a battu à mort un jeune homme qui appartenait à la famille du garçon de 17 ans, tué au mois de février dernier par un militaire FRDC. Ceci a provoqué la colère de la population qui est descendue dans la rue. Le gouverneur de province intérimaire de l'Équateur, Jean-Claude Baende, appelle Kinshasa à mettre de l'ordre dans les rangs des éléments de la force navale. Il le dit au micro de Dominique Wolombi.
Et la population s'est soulevée à Lissala. Nous avons été saisis par les honorables députés provinciaux qui sont à Lissala, qui ont essayé de contenir la pression populaire. C'est la raison pour laquelle nous, autorités provinciales, nous appelons une fois de plus le pouvoir central au niveau de Kinshasa pour tout faire afin de libérer la province de l'Équateur de l'emprise malheureuse des éléments de la force navale. C'est vraiment une situation qui nous inquiète. Nous avons interpellé plusieurs fois les autorités de la force navale et nous n'avons jamais été entendus. Nos plaintes n'ont jamais été suivies d'effets positifs. Et là, la force navale continue à créer la panique, la désolation au sein de la population. Et si cela continue...
À Kinshasa, un suspect déjà aux arrêts au sujet de l'assassinat du colonel de la police, le bon Mipembe, tué samedi dernier à Limété. Révélation de l'inspecteur provincial de la police ville de Kinshasa hier à Radio Okapi. Le général Jean Dieudonné Oléko nous parle ici de l'évolution de l'enquête au micro de Baben Pongo.
Nous sommes sur la voie et je dois vous dire que nous avons arrêté déjà un des éléments qui sont intervenus.
Non, mais général, si déjà au niveau de la ville on commence à attaquer la police, il y a un colonel de son
coin. Non, madame, il ne s'agit pas d'avoir attaqué un colonel de police, mais un homme a été assassiné. Il revenait avec sa femme dans un véhicule privé, tout à fait anonyme, et il vient de Kananga. C'est le même jour qu'il est venu de Kananga. Donc, on ne peut pas dire que c'était quelque chose de prémédité. Il est arrivé à 16h et aux environs de 0h, il revenait d'une visite de famille. Il a été attaqué par des bandits. Il faut qu'on s'entende très bien. La mort d'homme, d'une manière générale, n'est pas bonne. Et par sur quoi? Par des bandits? C'est un défi qu'on nous lance. Nous devons le relever. Mais il ne s'agit pas d'une particularité pour la police.
Le colonel Lebon Mipembe, assassiné, était inspecteur provincial adjoint chargé de l'administration et des opérations de la police à Kananga. Il était en transit à Kinshasa pour rejoindre son nouveau poste d'affectation à Lubumbashi. À Goma, province du Nord Kivu, le corps du secrétaire provincial du RCD, Choubin Kositi, a été retrouvé lundi dans le quartier Keshero, dans l'enclos de l'hôtel Caribou. Il était aussi chef des services des produits avariés de l'OCC. Le défunt porte sur son visage des traces des coups et blessures. Son corps a été amené à l'hôpital général de Goma pour autopsie en présence des agents de la police et de sécurité. Pour rappel, Choubin Kositi était porté disparu depuis samedi. Au sujet de cette mort, William Swing, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, condamne cet acte criminel et enjoint les services compétents congolais à tout mettre en œuvre pour que les auteurs de ces lâches assassinats, que rien ne serait justifié, soient retrouvés et déférés devant la justice. Journée internationale des destructions des armes, c'était hier lundi 9 juillet, l'ONG MAG mène Advisory Group a célébré la destruction de la millionième arme. À cette occasion, MAG a procédé à la destruction symbolique des armes de petit calibre. C'était à la base logistique centrale des FRDC. Sachez qu'en RDC, MAG a déjà détruit 27 800 armes légères et 74 tonnes de munitions à Kinshasa, à Mbandaka et Guadeloupe, province de l'Équateur. Cette destruction d'armes peut-elle contribuer à la baisse de la criminalité? La réponse avec Marc Anguibo, chef de projet MAG en RDC, au micro de Jocelyne Moussaoupondé.
Je pense qu'effectivement, tous les cas d'assassinats et d'actes illégaux armés sont répréhensibles. Je crois malgré tout que le rôle de l'ONG MAG, ce n'est pas de résoudre tous les problèmes. C'est une action contributive, encore une fois, à la politique d'ensemble sécuritaire qui est menée sous l'égide de la communauté internationale et avec la volonté des pouvoirs congolais. Nous n'avons pas tout résolu. Nous sommes sur le bon chemin. Celui d'un affichage très clair des autorités congolaises, d'appuyer cette opération de destruction d'armement et des munitions, qui encore une fois sera de nature à diminuer la menace au Congo. Et plus nous détruirons ces armes inutiles, ces armes en surplus, ces armes non contrôlées, plus, je crois, nous serons sur le chemin de l'amélioration de la sécurité dans ce pays.
Notez qu'à l'occasion de cette journée internationale des destructions des armes, les responsables de MAG annoncent que 40 à 50 000 autres armes attendent encore dans les entrepôts de la base pour être détruites. Plus de 15 000 expulsés congolais d'Angola sont arrivés samedi dernier au poste frontalier de Moussevou en territoire de Kapanga dans la province du Katanga. Une dizaine des milliers d'autres se retrouvent dans des localités des deux Kasaï. Complètement démunis, ces Congolais affirment avoir été dépouillés de leurs biens par les militaires angolais. Débordés, les administrateurs des territoires qui tentent d'apporter une première aide à ces expulsés appellent à une assistance urgente. Nazar Koko nous parle des expulsés des deux Kassai.
Dans le Kassai occidental, ils sont plus de 12 500, ces expulsés qui sont arrivés au poste de sortie de Sumbula vers Kamabonji, ainsi que par Kabungu et Kamako. Tous marchent vers Chikapa. C'est le gouverneur provincial intérimaire qui l'annonce après une visite dans les villages frontaliers le week-end dernier. Hubert Miigo a conduit au centre de santé de Sumbula des malades et des femmes qui ont accouché samedi dernier. Dans le Kassai oriental, plus de 250 personnes sont en route vers Mweleditu, la deuxième ville de cette province. D'autres, innombrables, se dirigent vers les localités de Wikong et Kaninchin, a indiqué un chef traditionnel de la localité. Ces expulsés proviennent des Malouba, en Angola, où ils exploitaient le diamant. Les témoignages sont tous unanimes. Les expulsés ont tout perdu. Diamants, argent, habits et autres biens de valeur confisqués par les forces angolaises. Plusieurs exactions sont aussi commises par ces forces de sécurité contre eux, affirme-t-il. Le maire de la ville de Mweleditu, Kazadi Chiput, envisage prendre des mesures nécessaires pour encadrer tous ceux qui n'ont pas de famille sur place.
Contacté à ce sujet, l'ambassadeur d'Angola en RDC, João Maoete Batista, n'a pas voulu s'exprimer pour l'instant. Les évêques congolais invitent les dirigeants de la RDC à un changement de mentalité afin de sauver le pays des dangers qui le guettent. Ils l'ont fait savoir dans la déclaration finale de la 43e plénière de la Conférence épiscopale nationale du Congo rendue publique hier au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa. Le titre de la déclaration est « Avant nouveau ». Outre neuve, n'est pas décevoir les attentes de la nation. Soulignant des préoccupations sur la situation du pays, les prélats catholiques formulent des recommandations au peuple et aux dirigeants concernant l'insécurité et l'exploitation des ressources naturelles du pays. Le condensé de cette déclaration avec René Capita.
L'installation des nouvelles institutions démocratiques ne suffit pas pour résoudre les problèmes vitaux du peuple congolais. Relevant des préoccupations liées notamment à l'insécurité, surtout à l'est du pays, la CENCO recommande au gouvernement d'organiser les états généraux de l'armée afin de mettre sur pied une armée capable d'y répondre à sa mission. Face à l'exploitation des ressources naturelles, la CENCO a décidé de s'impliquer dans le processus de révisitation des contrats miniers initiés par le gouvernement. Car pour Monseigneur Mosengo,
il est normal que celui qui est investi ait du profit à partir de son investissement, mais il est aussi normal que celui qui investit dans un pays pense aussi au peuple du pays en question. Voilà pourquoi nous demandons de revoir ces contrats léonins qui, par définition, sont des contrats qui ne sont pas justes ni équitables. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé cette commission qui suivra les dossiers.
Notons enfin que la CENCO a invité les Congolais à investir dans leur pays afin d'assurer un développement intégral et solidaire.
Au sud Kivu, la population d'Itombwe dans le territoire de Mwenga s'insurge contre l'érection de leur forêt en réserve naturelle protégée. Elle souhaite que cette forêt soit plutôt une réserve de faune et domaine de la chasse. Les ressortissants d'Itombwe vivant à Bukavu ont fait cette déclaration hier à Radio Kapi Bukavu. Les habitants d'Itombwe appellent les autorités de la province à prendre en compte leurs intérêts car certains d'entre eux habitent dans la forêt et vivent de la chasse. Lutendo Boulong, membre de l'association des ressortissants d'Itombwe, pose quelques préalables au micro d'Astrid Mujinga.
Que l'érection de la réserve soit précédée par la réalisation des projets socio-économiques, notamment la réouverture des routes Mwenga-Itombwe-Fizi et Miki-Kitopo-Malenge, réhabilitation des écoles et infrastructures sanitaires, l'appui au projet agro-pastoral initié par la population, la construction de différents marchés, l'ouverture d'une radio communautaire à Itombwe, l'installation d'une antenne d'un réseau de communication à Itombwe, la création d'écoles techniques, d'écoles agronomiques, vétérinaires, d'éducation environnementale, etc. L'ouverture d'un institut supérieur de développement durable à Itombwe et la construction des micro-centrales hydroélectriques pour éclairer les villages d'Itombwe.
Pour rappel, il y a quelque temps, le gouverneur de la province du Sud Kivu avait signé un arrêté faisant de la forêt d'Itombwe une réserve naturelle et protégée. Cette forêt renferme entre autres des gorilles de montagne et des singes que l'autorité s'engage à protéger. Les travailleurs de l'OFIDA sont en grève. Les agents de cette régie financière réclament le paiement de leur bonus du deuxième semestre 2006 et premier semestre 2007. Pour Tati Sungani, président national de la délégation syndicale de l'OFIDA, les agents de l'OFIDA ne pourront retourner au travail qu'après le paiement de la totalité de leur bonus. Il s'exprime au micro de René Capitapelezo.
Il s'agit comme toujours du bonus, donc la plus-value du dernier trimestre 2006, de la plus-value de 2007, premier trimestre et deuxième trimestre. Il s'agit également des arriérés de salaire pour le mois d'avril, mai et juin. Mais il y a aussi des revendications d'ordre social, par exemple le paiement à temps de nos rétrocessions, le transfert à temps des paiements salariaux vers les provinces. Nous ne reprendrons le travail que si le gouvernement s'acquitte de la totalité de ce que nous lui réclamons. Dans le passé, nous avions accepté des acomptes, mais nous avons vu ce que cela a donné. Quand le gouvernement paye l'acompte et que le personnel reprend le service, le gouvernement se lave les mains. Et c'est nous qui, de nouveau, subissons les pressions des travailleurs. Donc, nous avons cette fois-ci demandé au gouvernement de payer la totalité. Le gouvernement ne nous prendra plus au piège. C'est fini, cette affaire-là appartient au passé, c'est la totalité. C'est le principe du tout ou rien.
Ce mouvement d'arrêt des travaux des agents de l'OFIDA est également suivi à Matadi et Boma, province du Bas-Congo, à Kisangani, en province orientale, et à Monegitu, au Kasaï oriental. À Chikapa, province du Kasaï occidental, le manque des structures de rééducation des jeunes en conflit avec la loi est source d'incompréhension entre l'autorité urbaine et les structures judiciaires. Plus d'une fois, le maire se plaint de recevoir à sa charge des mineurs en situation irrégulière. Pour les autorités judiciaires, la mairie est pour l'instant le seul bureau capable de prendre en charge ces enfants. Le dernier camp en date est celui d'un mineur de 15 ans qui avait déjà passé 6 mois en détention préventive à la prison. André Kambala revient sur la situation de cet enfant.
Sur la liste des enfants remis à l'autorité urbaine pour l'encadrement figure en dernière position un jeune de 15 ans reçu en fin de semaine passée. Selon Albert José Mutombo, maire de Chikapa, cet enfant était gardé depuis 6 mois en détention préventive à la prison. Le tribunal le lui a remis en fin de semaine pendant que son état de santé devenait critique. Le maire déclare l'avoir aussitôt envoyé à un centre de santé avant de songer à le renvoyer en famille. Pour le magistrat Abdon du tribunal de Chikapa, cet enfant a été remis à l'autorité urbaine pour parachever sa rééducation par manque de structure sociale crédible pour enfants. Il précise qu'il s'agit plutôt d'un enfant de la rue accusé d'avoir détourné de biens. Enfant qui a été déféré devant les juges des enfants et gardé depuis 5 jours seulement pour sa rééducation. En 5 jours, l'état de santé de l'enfant s'est détérioré du simple au pire. Il faut signaler qu'à la prison de Chicapa, il n'existe pas de pavillon pour mineurs. Les adultes et les enfants en conflit avec la loi vivent en promiscuité dans un bâtiment qui, selon le maire, n'avait pas été construit pour devenir une prison. Kananga, André Kambala, Radio Kapi.
Au Katanga, le prix du maïs a baissé depuis vendredi dernier à Kamina, chef-lieu du district du Haut-Lomami. En saut des 2 kilos de maïs est passé de 250 à 170 francs congolais. Selon l'inspecteur de l'agriculture, pêche et élevage de Kamina, cette baisse est due à l'arrivée des 2 rames des trains de la SNCC en provenance de Kabongo. Les habitants de Kolwezi et de Kamina se réjouissent de cette situation. On écoute le sentiment de l'un des habitants de Kamina. J'ai au téléphone par Madeleine Waila.
Il y a eu une baisse des prix de maïs à Kamina. Cette entrée par la SNCC, les maïs ont été vendus à un prix relativement bas. Par exemple, à 150 francs congolais, le méga, mais avant, c'était dans les environs 150-300. La population est contente. Il y a certains Kassayens qui s'achètent les maïs au niveau des camionnets et qui les transportent. On voit des camions qui chargent de maïs et vers Kassai.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente condition d'écoute sur Radio Okapi.